Les rencontres du magazine de l'ACFAS. C'est en juriste œuvrant à l'intersection de la sociologie, de la science politique et de la philosophie que Pierre Noreau intègre la faculté de droit de l'Université de Montréal en 1992. Droit public, administratif, de la famille, de la protection de la jeunesse, des autochtones, il est et restera un généraliste s'intéressant à tout objet où le droit met son nez. Pour Pierre Noreau, la fonction du droit, peu importe le domaine, vise toujours les mêmes finalités générales. Assurer la coordination mutuelle des comportements, éviter les conflits, régler les problèmes, atteindre des objectifs communs et répartir le pouvoir.
L'idée qu'on pouvait étudier le droit à partir de disciplines qui n'étaient pas du droit, de faire de la sociologie du droit ou d'analyse économique du droit, c'est encore une idée assez neuve, en fait. Il y avait des précurseurs en France, le doyen Carbonnier, en amateur, il le reconnaissait lui-même, avait fait de la sociologie du droit. Mais il n'était pas sociologue, donc il ne le faisait pas systématiquement. Il dépendait, d'une certaine façon, du travail de sociologue, qui, eux, n'étaient pas juristes. Donc, il y avait une jonction qui ne se faisait pas parfaitement entre les deux, mais c'était possible tout de même de travailler ensemble, sociologue et juriste. Ceux qui faisaient dans ce domaine-là ici, à l'Université de Montréal en particulier, qui est le lieu où ça se faisait le plus, étaient soit sociologues, comme Guy Rocher, qui était sociologue mais non juriste, soit juristes, comme André Lajoie, mais pas sociologue et pas anthropologue, soit juristes et vaguement philosophes, comme c'était le cas à l'Université McGill, Rod MacDonald, par exemple, étaient de ce profil-là. Donc, des gens qui... font se croiser des modes de connaissance, mais dont ils n'ont pas complètement toujours le contrôle. C'est-à-dire que étudier le droit lorsqu'on n'est pas juriste, c'est suspect par définition, dans l'œil de n'importe quel juriste. Hein? Et Guy Rocher était très conscient de ça. Il a très habilement travaillé en tant que sociologue ici, en faisant comprendre l'utilité que ça présentait. Moi, j'arrivais avec les deux formations, enfin avec plusieurs formations, parce que j'avais fait... mon bac en droit, j'avais fait un doctorat en sociologie politique et puis un post-doc avec Guy Rocher, d'ailleurs, en sociologie du droit. Et donc, j'étais à l'interface du droit, de la sociologie et de la science politique. Et comme j'avais fait mes sciences politiques en France, j'avais une assez bonne base en philo-politique. Et souvent, aujourd'hui, quand je parle d'interdisciplinarité, je ne dis pas que je fais de l'interdisciplinarité entre le droit et la science politique. Non, je ne fais pas ça. En fait, je fais une interdisciplinarité entre la science politique, la sociologie et la philosophie. Mon objet, c'est le droit. Pourquoi? Parce que la pensée juridique n'est pas une pensée analytique, c'est une pensée normative. La fonction des catégories juridiques, c'est pas nécessairement d'analyser le monde et de le comprendre, c'est de lui imposer une certaine forme. Et donc, c'est un discours très spécifique sur le monde. C'est un mode de connaissance, mais c'est un mode de connaissance qui n'est pas fondé sur le même projet intellectuel, sur les mêmes finalités. L'objectif du droit, c'est de s'imposer. L'objectif du droit, c'est de réguler les rapports sociaux en fonction d'un certain nombre de catégories, qui sont les catégories juridiques, de dispositifs, qui sont les dispositifs juridiques, alors que le travail du sociologue, du politologue, de l'économiste, c'est de comprendre la société telle qu'elle roule. Et donc, il n'y a pas de projet nécessairement normatif derrière la sociologie. Il arrive parfois qu'on a des visées réformatrices, comme ça arrive souvent en sciences sociales. Mais ce n'est pas nécessairement la fonction première, c'est d'abord de comprendre comment la société fonctionne. Alors que le droit, sa fonction, et le juriste, c'est d'imposer un certain ordre à la société. Ces deux approches-là, donc, ne sont pas si faciles à concilier et de... faire de l'interdisciplinarité en disant « je vais tenir un projet normatif en même temps que je tiens un projet analytique », c'est un défi, je pense, qui est difficile à relever parce que c'est deux projets intellectuels différents. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des procédés communs. Par exemple, au plan intellectuel, le procédé numéro un, le principal procédé en sciences sociales et humaines, comme dans le domaine des sciences en général, c'est l'objectivation. Ce n'est pas l'objectivité qui... quelque chose dont on ne sait plus bien définir aujourd'hui, surtout dans une société qu'on dit plus postmoderne, où apparemment tous les points de vue se valent. Bon, ça, c'est une chose au plan de la vie personnelle. Mais je pense que si on veut comprendre quelque chose, il faut être capable de dire puis qu'on veut faire œuvre utile au plan scientifique, et c'est le projet, en fait, de la connaissance qui est fondé là-dessus, c'est de dire quelque chose qui n'est pas vrai seulement pour soi, mais qui est vrai pour quelqu'un d'autre, et qui pourrait être peut-être pour un ensemble de la communauté des chercheurs de notre domaine, et peut-être même pour l'ensemble des gens qui vivent dans notre société. Donc, dire quelque chose qui n'est pas simplement vrai par la volonté que j'ai de le dire et de le faire partager, mais qui est également, qui peut être raisonnablement partagé par quelqu'un d'autre, hein, et qui peut être considéré par vrai par plusieurs personnes. Et pour y arriver, il y a cet effort d'objectivation, de dire quelque chose qui donc pas seulement vrai pour soi, mais qui est vrai pour soi et pour d'autres. Et je pense que ce travail d'objectivation, les juristes le poursuivent aussi. Le travail du droit, le travail du juriste, la fonction juridique est une fonction d'objectivation des rapports sociaux également. Je l'indique pour montrer que même si les projets, la visée n'est pas la même, puisque dans un cas en droit, on essaie d'imposer une certaine forme à la société, alors qu'en sciences sociales, de façon générale, on essaie de comprendre la société telle qu'elle est, sans lui imposer une forme particulière, il reste que le procédé mobilisé par les deux serait simple, le désir d'objectivation reste le même. C'est un projet, en fait, éminemment moderne, si je peux dire. Mais cela étant, l'interdisciplinarité avec le droit, c'est pas si simple à faire pour des raisons que je viens d'expliquer. Et moi, ce que je fais surtout, c'est d'essayer de comprendre comment le droit fonctionne. C'est pas d'établir qu'est-ce que doit être le droit pour être du droit, mais c'est d'étudier le phénomène par lequel le champ du droit se développe, se structure, s'autonomise, se construit une vision particulière du monde qui est partagée par tous ceux qui tiennent le discours juridique, d'abord les juristes. Et conséquemment, j'étudie le droit comme un phénomène social. Et ça peut être abordé par plusieurs disciplines différentes, mais je pense que les relations entre les disciplines aujourd'hui en sciences sociales sont plus resserrées, et la distinction, par exemple, avec une perspective d'anthropologie du droit et sociologie du droit, elle est plus aussi importante aujourd'hui qu'elle a pu être à une certaine époque. Et on peut le voir dans l'évolution des sciences sociales en général. À partir du moment où vous voulez faire une anthropologie de la vie quotidienne, par exemple, c'est clair que vous vous rapprochez, au fond, comme projet, de ce que cherche à étudier la sociologie aussi. Si vous vous intéressez au problème du pouvoir, de la domination, comme en sociologie, on le fait souvent, vous vous rapprochez des préoccupations de la science politique. Donc, les disciplines en sciences sociales et humaines se sont rapprochées, je dirais. Les perspectives sont moins tranchées qu'elles étaient. Je ne dis pas que les disciplines n'existent pas. Je pense qu'elles existent, mais elles se sont construites dans un certain contexte institutionnel, historique. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une caractéristique propre à l'anthropologie, par exemple, ou à la sociologie. Je pense qu'on pourrait, on peut le travailler, on peut les distinguer, si on veut. Mais dans la pratique de la recherche, ce ne sont plus des distinctions si importantes. Et moi, j'ai été favorisé par le fait que faisant mes études en sciences politiques à Sciences Po, à l'Institut d'études politiques de Paris, où le troisième cycle était un troisième cycle totalement interdisciplinaire là, sur les questions de la science politique, où il y avait beaucoup de place pour l'histoire, beaucoup de place pour l'anthropologie, beaucoup de place pour la philosophie. Les barrières entre les disciplines ne m'ont jamais trop dérangé. Et puis, j'ai accepté de payer le prix d'accès à ces différentes disciplines-là jusqu'à ce que j'arrive à voir les ponts qui se faisaient. À un certain niveau d'abstraction, on travaille dans des perspectives qui ne sont pas si différentes. Donc, pour venir à mon champ de recherche, pour revenir au droit, lorsque j'ai intégré le Centre de recherche en droit public, on avait des sociologues pas juristes et des juristes pas sociologues, si je peux dire, et ça compliquait pas les choses, parce qu'il y avait une belle ambition là-dedans. Mais le prix d'accès, des fois, à la discipline de l'autre n'était pas payé. Et donc, soit ça nécessitait, du côté des sociologues, de travailler à un très haut niveau d'abstraction pour pouvoir dire quelque chose qui est vrai encore pour tout le monde, y compris pour des juristes, mais sans jamais traiter de la matière du droit en tant que telle, qui est pourtant un objet de la sociologie du droit. Soit dans des perspectives qui sont assez abstraites aussi, mais qui n'étaient ni vraiment sociologiques, ni vraiment philosophiques, ni vraiment anthropologiques. Il arrivait que, à ce moment-là, des juristes réinventent la roue. Hein. C'est-à-dire que redécouvrent des choses que Durkheim avait dites ou que Malinowski avait découvertes. Et ça, pour quelqu'un qui avait comme passé beaucoup d'années à arriver à lire ce qui se faisait ailleurs dans ces différentes disciplines-là, des fois, c'était un peu frustrant. Si je regarde ça maintenant, après plusieurs années, je pense qu'on doit beaucoup à ces pionniers-là parce qu'ils ont risqué tout. Et ils ont fait que moi, j'ai pu mener une vie de recherche où la sociologie, la science politique, la philo pouvaient trouver, la philo politique particulièrement dans mon cas, pouvaient trouver avait acquis une certaine légitimité. En même temps, évidemment, il y a eu des crispations autour de ça. Il a fallu que je vive aussi avec ces crispations-là, c'est-à-dire l'inquiétude du juriste qui tout à coup se dit « mon mode de pensée est peut-être un mode de pensée un peu rikiki. En définitive, je réduis tout le monde à quelques articles dans une loi. Et peut-être que ma compréhension du monde ne me permet pas nécessairement d'assurer l'effectivité du droit, son efficacité, sa jonction avec les nécessités sociales du moment. » Et il est arrivé conséquemment que ces travaux-là bousculent. Et au départ, moi-même, j'ai dû traverser ce mouvement-là, puisque j'accompagnais ceux qui tentaient de le faire des deux côtés des barrières disciplinaires. Je me suis retrouvé donc souvent moi-même à défendre la nécessité de ce regard externe, essayer de rassurer les collègues juristes, à la fois sur la valeur de la pensée juridique comme projet intellectuel, et en même temps sur l'intérêt d'utiliser ce que les autres sciences sociales proposent. On peut reconnaître, malgré la distinction dont j'ai parlé, que le droit est une forme de science sociale. Et que donc, on pouvait tirer avantage de ce que les autres disciplines proposaient, sans que la pensée juridique soit menacée pour autant. Je pense qu'il est un peu parvenu, mais je me rappelle de certains moments où ça a été plus difficile. J'ai été dénoncé à un certain moment par le bâtonnier dans le journal du barreau, parce que je faisais la démonstration que l'opinion publique se méfiait du système de justice et que ça contrevenait à une des exigences de mon code de déontologie comme avocat, qui est de défendre le système judiciaire. Alors que moi, je révélais ces données-là pour qu'on puisse trouver une façon d'assurer la légitimité du système de justice en étant conscient que bon, une bonne partie de la population, qui est souvent la partie de la population qui a le moins accès, qui est souvent la partie de la population qui est le plus susceptible de subir le droit plutôt que de l'utiliser, puisse aussi considérer et reconnaître la nécessité de l'institution judiciaire, par exemple, dans ce cas-là. Donc, il y a eu des épisodes assez, je dirais, difficiles dans cette démarche-là, notamment avec les corporations professionnelles, parce que c'est un monde où il y a des corporations professionnelles. Et à l'intérieur de la faculté en même temps, parce que ce qu'on faisait menaçait, en fait, l'édifice du droit. Ou du moins, on pouvait le craindre. Ce qui n'était pas nécessairement mon point de vue, mais c'était le point de vue d'un certain nombre de collègues. En même temps, il y avait des complicités extraordinaires, des collègues qui, justement, d'une autre génération, là, qui a pris sa retraite depuis, là, qui, eux, avaient fait philo, ou eux avaient fait sciences politiques. Et qui comprenaient bien l'intérêt que ça présentait, mais qui, en fait, eux, avaient été confinés dans le discours juridique toute leur vie. Là. Mais ils saisissaient immédiatement l'intérêt que ça présentait. Et ces complicités-là, avec François Chevrette ici, notamment, mais avec d'autres aussi, Pierre-André Côté, Jacques Frémont, ce sont des complicités qui m'ont permis, moi, de me dire, bon, oui, je peux faire quand même quelque chose. Et j'ai une place dans cette faculté, j'ai une place dans le monde de l'étude, des études juridiques. Bon, maintenant, on y est un peu parvenu. C'est-à-dire que cette perspective-là, plus interdisciplinaire, elle est plus facilement admise aujourd'hui. On a formé, il faut dire, des générations de chercheurs qui sont maintenant dans les facultés de droit, et ça, c'est une grande chance qu'on a, et qui ont poursuivi dans ce sens-là en Europe. Généralement, les sociologues, les anthropologues, les économistes du droit, les philosophes du droit ne sont pas dans les facultés de droit. Ils sont au CNRS, ils travaillent comme chercheurs, ils sont dans les autres facultés que les facultés de droit. Nous, on a l'avantage ici d'être dans des facultés de droit. Et je pense que ça explique un peu, je pense, qu'on soit parvenu à faire comprendre l'intérêt que ça présentait d'aborder le droit dans d'autres perspectives, à partir d'autres disciplines. Et je pense, de ce point de vue-là, qu'on a réussi notre coup, d'une certaine façon. On est parvenu à ça. Et qu'on a formé suffisamment d'étudiants au doc, au post-doc, dans ces perspectives-là, pour que cette perspective-là se poursuive à l'avenir et qu'il y a toujours une place pour l'interdisciplinarité, les études interdisciplinaires en droit, et que pour des collègues qui sont vraiment des juristes pur jus, là, si je peux dire, l'intérêt naisse de comprendre, notamment au plan de l'effectivité du droit, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre des autres disciplines. La plupart des étudiants qui viennent ici en droit, pour le doctorat par exemple, veulent réformer le droit. Ils veulent que le droit soit mieux. Ils voient certains des dysfonctionnements qui sont révélés par la jurisprudence, par exemple, par les décisions de justice. Ils veulent faire un droit mieux. Ils ont des préoccupations réformatrices du droit. Et je pense qu'eux-mêmes réalisent qu'on ne peut pas étudier, on ne peut pas réformer le droit pour l'orienter dans un nouveau sens, même dans des perspectives de social engineering, là, si on n'a pas une idée un peu claire des conséquences que ça aurait, et si on ne comprend pas, en fait, les véritables raisons qui expliquent pourquoi le droit qui existe ne fonctionne pas. Et on voit immédiatement l'intérêt de faire des recherches dans une autre perspective que la perspective du droit. Je dirais même au plan de la pensée juridique, comment pense un juriste? La plupart des juristes ne peuvent pas définir clairement la façon dont ils pensent. Leur pensée reste une pensée qui, même avec une visée d'objectivation, reste une pensée improvisée, si je peux dire. Un sociologue sait à peu près comment il réfléchit. Un anthropologue sait à peu près comment il réfléchit. Un anthropologue peut faire l'anthropologie des anthropologues, si je peux dire. On peut faire la sociologie des sociologues. Mais on ne peut pas faire la juridicité des juristes. C'est-à-dire que le monde juridique et la pensée juridique telle qu'elle se construit, elle est plus facile à étudier à l'extérieur de la pensée juridique elle-même, qui est une pensée qui cherche constamment sa clôture et sa cohérence interne, que de l'intérieur. De sorte que beaucoup de juristes seraient mal pris si on leur demandait comment ils pensent. Comment pense un juriste? C'est souvent plus facile à partir d'une comparaison avec un autre mode de pensée, comme la pensée du sociologue ou du... Les catégories juridiques elles-mêmes ne permettent pas de comprendre le droit comme réalité sociale. Il faut utiliser donc des catégories de d'autres disciplines. Je crois qu'on est beaucoup plus proche de cette conviction-là aujourd'hui dans les facultés de droit parce que graduellement, on est parvenu à montrer l'intérêt d'étudier ces phénomènes-là à partir d'autres perspectives disciplinaires que le droit. Et donc, je dirais dans ce sens-là qu'on est parvenu à peu près à atteindre les objectifs qu'on se fixait d'ouvrir en fait la pensée juridique à d'autres perspectives. Dans le domaine du droit, je pense qu'on a réussi à faire la démonstration de la possibilité de travailler en équipe interdisciplinaire, mais en équipe aussi, même entre juristes. C'était une chose qui n'existait pas avant. Les chercheurs travaillaient individuellement. Ici, au Centre de recherche en droit public, l'essentiel des travaux était individuel. Les gens signaient seuls. C'est encore une caractéristique du travail à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, puis dans la plupart des facultés de droit au Québec. Hein. Mais on a montré la possibilité qu'on pouvait travailler ensemble et qu'on pouvait travailler avec des étudiants aussi. Et souvent, pour travailler avec des étudiants, bien, il faut pouvoir les associer à nos travaux, souvent en les payant, en fait, comme agent de recherche. Et donc, ça prend des sous. Et donc, on a montré l'utilité, la nécessité même pour les juristes, parfois, d'aller chercher des moyens qui permettent de conduire de la recherche en se faisant aider par des étudiants et en travaillant avec d'autres collègues avec lesquels ils font équipe. Des collègues qui, eux, souvent, ne sont pas nécessairement des juristes. Donc, ça, cette évolution-là, elle existe actuellement. On a légitimé, en fait, un autre type de recherche que la recherche strictement individuelle et artisanale. Souvent, on dit qu'il n'y a pas grand-chose qui distingue le juriste du théologien ou de l'exégète. C'est très... L'exercice est à peu près le même. Or, il y a beaucoup à faire. On peut faire beaucoup mieux que de produire de la doctrine en droit. Et parce que le gros problème, ce n'est pas toujours de savoir quel est l'état du droit, mais pourquoi c'est cet état-là et pas un autre? Pourquoi on a pris cette orientation-là et pas un autre? Pourquoi ce sont ces dispositifs-là et pas un autre? Et je pense qu'on est parvenu à faire comprendre que ces questions-là, ce sont les questions importantes. Le reste, c'est la description du droit tel que finalement il a été cristallisé dans la législation, dans la réglementation. Ça devient une question de lecture, d'une certaine façon. Mais de comprendre pourquoi, c'est plus important que de comprendre quoi. Et ça, je reste ce retournement-là du questionnement. Être capable de se poser des questions de pourquoi et de comment, plutôt que des questions de quoi. Ça, je pense que c'est ce qu'on est parvenu à apporter dans les facultés de droit, mais parce que ce sont... le genre de questions que se posent les chercheurs des autres disciplines. Et donc, il y a eu là une forme de, je dirais, une influence, il y a eu un mouvement, qui est peut-être la conséquence principale d'avoir abordé le droit à partir d'autres disciplines que la discipline juridique elle-même. Maintenant, ça, c'est ce qui a changé, je pense, dans la recherche en droit. Travailler en équipe, travailler avec des étudiants, être capable d'aller chercher des ressources pour faire mener ces travaux-là, se demander des questions de pourquoi et de comment. Comme je l'indiquais, en droit, on n'était pas tellement intégré dans ce système-là, puisque tout le monde travaillait dans son bureau, tout seul, sans subvention, sans moyens, sans étudiants, sauf marginalement. Et donc, on était déjà un peu en marge de la façon dont le système fonctionnait, puisque à cette époque-là, moi, quand j'ai commencé à travailler comme chercheur, en 92, beaucoup des recherches qu'on menait étaient des recherches individuelles. Le financement, c'était possible d'obtenir un financement individuel pour une recherche. C'est encore possible aujourd'hui au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, dans les subventions qu'on appelait ordinaires de recherche, là, 410, là, le vieux 410, le vieux programme. C'est encore possible aujourd'hui de mener des recherches individuellement. Mais ce n'est pas ce qui est favorisé. Et moi, j'ai vécu, en fait, l'évolution du système du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire des carrières menées sans aucune subvention de recherche, sans équipe, sans étudiants, complètement de façon isolée, avec un profil qui est le profil, l'espoir d'écrire le grand livre à la fin de la carrière, si je peux dire. Vers ces modes actuels de production de la connaissance, là, avec tout ce que ça implique. Et je suis arrivé au début de ces mutations-là, c'est-à-dire au moment où déjà les critères pour obtenir des moyens s'étaient multipliés, c'était déjà un peu plus compliqué que dans la période antérieure, il fallait prouver beaucoup de choses. Il y avait tranquillement de plus en plus de demandes, donc la concurrence était beaucoup plus élevée, les taux de réponse étaient... positive était plus faible. Déjà, quand je suis arrivé, il fallait apprendre à passer à travers ce sas-là, là, finalement, ce système de tri entre les projets subventionnés et pas subventionnés. Mais mes premiers projets étaient des projets individuels. J'ai été assez chanceux de joindre des équipes de recherche, cette équipe de Madeleine Gauthier, une équipe aussi avec Alain Gagnon à l'époque, qui m'a permis, en fait, d'apprendre à travailler un peu en équipe. Et graduellement, le système a évolué. Moi, je l'ai suivi. C'est-à-dire qu'on a demandé, on demandait au départ un bon projet. Finalement, on demandait un bon projet en équipe. Puis par la suite, on demandait un bon projet en équipe interdisciplinaire. Puis après ça, un grand projet en équipe interdisciplinaire interuniversitaire. Après ça, un grand projet d'équipe interdisciplinaire, interuniversitaire, intergénérationnelle, parce que là, il fallait qu'on ait tout un système de formation des étudiants qu'on intégrait dans nos équipes. Et par la suite, c'était pas suffisant. Il fallait que l'équipe soit interdisciplinaire, interuniversitaire, intergénérationnelle, internationale. Ça, c'est devenu très important. Même si, finalement, dans ces subventions-là, on ne pouvait jamais envoyer d'argent chez des collègues étrangers. Il fallait quand même qu'ils soient dans nos équipes. Là, c'était très compliqué. Parce qu'en fait, les exigences ne suivaient pas les systèmes eux-mêmes. C'est-à-dire que le système avait des exigences, mais il n'était pas cohérent avec les exigences qu'il avait. Beaucoup de ces changements-là, on a réussi à les faire, nous, parce qu'on était les premiers à monter des équipes internationales, pour se rendre compte qu'en fait, les chercheurs internationaux qu'on intégrait ne pouvaient pas être membres ou chercheurs ou co-chercheurs, mais pouvaient être seulement collaborateurs. On dit, ben non, ils sont dans l'équipe ou ils ne sont pas dans l'équipe. Qu'on ne pouvait pas leur envoyer dessous, alors que finalement, on leur demandait de mener une recherche équivalente en Europe que celle qu'on menait ici. Bon. Et donc, les systèmes ont évolué, mais souvent pas de façon si cohérente. Et c'est souvent les chercheurs, en fait, qui ont montré l'incohérence de ces systèmes-là. Et donc, les recherches sur l'environnement se sont développées, des recherches en équipe, des recherches donc en groupe, interdisciplinaires, interuniversitaires, intergénérationnelles, internationales. Après ça, en partenariat. Et là, donc, il fallait qu'on joigne des acteurs du système, dans le cas du système juridique, ou, en faire, en fait, des alliés dans cette recherche-là, Puis après ça, on leur a demandé à eux, en plus de contribuer à la recherche sous toutes sortes de formes, en prêtant du personnel, en donnant accès à des banques de données, en payant même une partie de la recherche. Et avec ça, évidemment, une augmentation constante du nombre des membres de ces équipes-là. De sorte que moi, j'ai commencé avec des équipes de 4 personnes, puis aujourd'hui, mon équipe principale fait 46 chercheurs, 50 partenaires. C'est un monde, en fait, qui s'est construit sur cette idée de grands réseaux de recherche. Et les programmes fédéraux ont favorisé ça, mais les programmes du Québec également. Les subventions d'infrastructure pour des équipes, pour des centres de recherche, des regroupements stratégiques. Et j'ai suivi, en fait, toute cette évolution-là au fur et à mesure. Et à chaque fois, ça compliquait considérablement le travail de construction des projets de recherche. Et je me disais toujours, je ne sais pas comment la génération prochaine va réussir à rentrer là-dedans. Comment est-ce qu'ils vont réussir à respecter toutes ces figures imposées? Ça va devenir complètement injuste, en fait, pour la génération suivante. Moi, ben c'est au coup par coup. Là. À chaque fois qu'il y a une mutation, ben je suis pris pour l'intégrer, je suis pris pour en tenir compte, je suis pris pour construire mes projets en fonction de ça, mais ça vient graduellement. Parallèlement, évidemment, les exigences ont augmenté. Avant, une demande de subvention, ça tenait dans 10 pages. La dernière demande de subvention était dans, je ne sais pas, 75 pages, plus tous les CV des collègues. Finalement, ça faisait 500 pages. Donc, au plan, je dirais même, formel, au plan de la démarche, au plan de la procédure pour demander des moyens, ça s'est considérablement complexifié aussi. J'ai assez étudié ça de près parce que j'ai été membre de beaucoup de comités. Quand je présidais un comité, que ce soit au FRQ, ou que ce soit au CRSH, à la fin, on demande toujours aux collègues comment on croit pouvoir améliorer le programme, et ça se conclut toujours par l'augmentation de 2 pages d'informations de plus, alors qu'on a des difficultés à passer à travers les dossiers qui sont déjà considérables. Si vous augmentez le formulaire de 2 pages par année, après 20 ans, bien, vous venez de l'augmenter de 40 pages. C'est assez mathématique. Donc, parallèlement au fait qu'il y ait pour montrer qu'un projet vaut la peine d'être mené, on a multiplié les exigences qui, des fois, ne sont pas du tout justifiées. Je vais expliquer pourquoi. Parallèlement, au plan formel, ça s'est compliqué extraordinairement. Et moi, je suis passé par tous ces processus-là. Au départ, on remplissait ça avec des IBM à boules, finalement, là, qui était la machine la plus performante, la machine à écrire la plus performante qu'on avait au début des années 90. Par la suite, il y a eu des programmes informatiques, il fallait faire venir la disquette, il fallait charger l'ordinateur, ça ne fonctionnait que sur PC, ça plantait tout le temps. Et puis là, à la fin de tout ça, il fallait imprimer puis envoyer le truc papier quand même, jusqu'à ce que l'Internet entre. Et là, ça a été toutes les tentatives des organismes subventionnaires de réussir à créer des interfaces fonctionnelles sur Internet, ce qui, dans certains cas, a été très long et très pénible parce qu'on n'y arrivait pas, les serveurs n'étaient pas capables de livrer, ça sautait 20 minutes avant l'heure de tomber. On découvrait à la toute dernière minute qu'il y avait 2 pages de plus, mais on ne le savait que lorsqu'on disait « envoie », etc. On a tout vécu ça, là. Tous ces trucs qui, en fait, était construit sur des systèmes mal conçus et où on improvisait beaucoup. Et je dirais qu'on a beaucoup souffert comme chercheur, je dirais, de l'improvisation dans laquelle ça s'est fait. Le fait que le CV, par exemple, utilisé par le CRSH n'est pas le même que le CV utilisé par le FRQ, ben c'est plate, là, mais ça veut dire qu'il faut que tu en écrives 2, sans compter le CV qu'on vous demande pour l'université pour rendre compte de vos activités de recherche dans une année donnée, etc., etc. Là. Et donc, cette multiplication-là et cette formalisation-là de l'activité de recherche, moi, je l'ai vécu, je l'ai vu évoluer. Je pense qu'on est atteint un niveau de formalisme qui dépasse l'entendement et auquel il faut réfléchir, il faut remettre ça en question. Parallèlement...
Vous qui réfléchissez sur les normes et tout ça, comment est-ce qu'on peut se sortir d'une telle situation?
En fait, c'est toujours une difficulté. Il existe en droit ce principe-là de la réforme. Enfin, la réforme juridique, à un moment donné, on recodifie, on réfléchit à nouveau le système. Le droit évolue de la même façon dans toutes les sphères. C'est-à-dire que la normativité en tant que telle, ce procédé d'organisation des rapports sociaux, ce procédé d'aiguillage des comportements, c'est le procédé principal dans la société moderne, le principal procédé d'organisation de n'importe quel système d'action, de n'importe quel champ d'action. Le champ de la recherche n'a pas été épargné par ça. En regardant comment le droit évolue, on peut comprendre comment est-ce que notre système de recherche a évolué aussi. C'est-à-dire par la multiplication des normes, des critères, des exigences, dont on ne comprend pas toujours le sens 20 ans plus tard, quand on a établi une norme à un certain moment pour éviter une certaine chose. On se surprend parfois que cette norme-là existe encore lorsque le problème n'existe plus. En droit, c'est fréquent. On modifie une loi pour régler un petit problème, puis une fois que le problème est réglé, on ne se souvient plus 40 ans plus tard pourquoi est-ce que cette norme existe. Et d'ailleurs, elle n'a plus aucune fonctionnalité parce qu'elle a été établie par rapport à un état de situation qui lui a changé, alors que la loi n'a pas changé. En contrepartie, elle s'est compliquée constamment. En général, les lois, lorsqu'on les écrit à frais nouveaux, comme la loi, par exemple, sur les soins de fin de vie, la loi sur la protection de la jeunesse, quand elle a été adoptée, la loi sur la protection du consommateur, quand elle a été adoptée, les lois d'une immense simplicité, avec des mécanismes, des dispositifs simples. Mais d'un amendement à l'autre, ces lois deviennent complètement incompréhensibles. Parce que, d'abord, si vous ne savez pas dans quel ordre les différents articles ont été adoptés, c'est bien très compliqué d'en comprendre le sens dans leur rapport les uns avec les autres. Ces normes-là, en fait, se complètent mutuellement. Mais à la fin, ils peuvent construire une situation complètement aberrante là, lorsqu'on les additionne toutes. Chacune pour elle-même a du sens, mais l'ensemble finit par ne plus en avoir. C'est la même chose pour le système de recherche. Il a évolué. Comme disait le doyen Carbonnier, les lois, on en adopte tous les ans, et puis on en retranche fort peu. La conséquence de ça, c'est qu'on multiplie la normativité, les normes utilisées. Il arrive parfois qu'il faut s'arrêter et se dire, bon, on en est où de cette complexité-là? Est-ce qu'elle est encore utile? Lorsque les membres des comités scientifiques, finalement, ne parviennent plus à passer de façon raisonnable à travers les dossiers parce qu'ils sont trop considérables, c'est un indicateur, je pense, qu'on a des difficultés. Je ne veux pas dire que le travail fait sur les comités n'est pas un bon travail, c'est le meilleur travail possible. Les gens qui travaillent sur les comités des programmes, pour certains programmes de recherche, c'est des gens qui sont complètement dédiés et qui font un travail exceptionnel. Et je peux le dire parce que je les ai beaucoup présidés et puis j'ai été membre de ces comités-là. Mais il y a une limite à ce qu'on peut leur demander. Est-ce que finalement, la dimension que prennent les projets aujourd'hui, est-ce que c'est une dimension qui est encore évaluable? C'est pas si certain. Et je ne suis pas certain que toutes les informations qu'on nous demande de donner, de fournir, correspondent à quelque chose au plan d'évaluation. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Et il y a une difficulté aussi encore plus importante pour moi, et je l'avais dit dès le début des années 90 dans un colloque qui avait été organisé par le FCAR à l'époque, c'est que lorsque j'écris une demande de subvention, je réponds aux figures imposées, moi aussi. Et je me dis toujours, j'espère que ceux qui vont lire vont comprendre que le projet que je veux mener, ce n'est pas celui que j'écris, là. C'est le projet derrière ce projet-là, qui est un projet beaucoup plus important, mais que je ne peux pas expliquer dans les contraintes qu'on m'impose. Ça, c'est une difficulté réelle. Avec le temps, on finit par apprendre à écrire une demande de subvention puis de dire vraiment ce qu'on veut dire. Mais honnêtement, je pense que les plus jeunes collègues qui rentrent là-dedans se sentent vraiment obligés de tenir un discours de carton. Ils sont obligés de vendre le modèle de carton alors que c'est la vie à l'intérieur du projet qui compte en fait le plus. On est parfois obligé de développer des arguments pour montrer comment on va travailler ensemble, alors que le véritable travail qu'on fait ensemble, c'est le fait qu'on se lise mutuellement les uns les autres et qu'on se commente. Beaucoup plus que le fait qu'on ait ramené un certain nombre d'enquêtes dans lesquelles tout le monde aurait eu un rôle précis à jouer, ce qu'on nous demande pourtant de démontrer constamment. Et donc, je dirais que le bon projet est rarement celui qu'on est capable d'expliquer. Et il faut quand même donner au projet une forme qui est imposée. Et je pense que là, il y a quelque chose de la créativité de la recherche qui se perd. Je pense que d'apprendre à remplir ces formulaires-là, d'apprendre à construire un projet, mais qui correspond au créneau, qui utilise les mots magiques qu'on s'attend que vous allez utiliser, ça vient plus ou moins gâter le projet lui-même, ou du moins ça ne permet pas de l'expliquer, et que finalement, on finit par être financé pour la mauvaise raison. Je pense que quelque chose a donc à réfléchir là-dessus. Moi-même, je n'ai pas à me plaindre de la place que j'ai pu tenir dans ce système de recherche. J'ai beaucoup apprécié d'être sur les comités de programme. J'ai beaucoup apprécié de présider beaucoup de ces comités-là, au CRSH. J'ai presque tout présidé. Et j'ai beaucoup apprécié le travail que les collègues ont fait là-dessus. J'ai beaucoup appris en lisant ces projets-là. Mais je sais que le projet derrière le projet est souvent plus intéressant et que c'est lui qu'il devient difficile d'expliquer. Dans cette fuite en avant-là, qui est essentiellement due au fait que les fonds destinés à la recherche ne sont pas suffisants. Le fait qu'on est passé de recherche individuelle en recherche d'équipe, c'est parce qu'on n'est plus capable de financer la recherche individuelle de chacun. Le fait qu'on demande que ce soit interdisciplinaire, c'est parce qu'on considère aujourd'hui que la plupart des problèmes ne peuvent pas être l'objet de l'étude d'une seule discipline, ce qui dans beaucoup de cas est faux. La sociologie, pour elle-même, en tant que posture particulière ou que projet de comprendre la société, est encore aujourd'hui tout à fait pertinente comme base pour étudier des problèmes de la société. Et que s'il n'y a pas de jonction avec les nouvelles technologies de communication, c'est peut-être pas très grave. Et je pense que là, il y a quelque chose qui s'est développé, un consensus qui n'est pas fondé au plan de la production de la connaissance sur le fait que tout ces inter étaient plus productifs. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mes plus beaux projets sont des projets que j'ai menés sans argent. Mais je veux être bien compris, là. C'est parce que j'avais mené pendant des années des recherches empiriques précises sur des questions précises et qu'à un certain moment, j'étais prêt à faire la synthèse intellectuelle, théorique de ça. Et que ce que j'ai produit de mieux, c'est dans ce cadre-là, au fond. C'est, dans le fond, le produit de très longues recherches empiriques, le legwork, le travail harassant de la cueillette des données, de l'analyse des contenus, de l'analyse statistique. C'est pas toujours au moment où je fais ces analyses-là que j'arrive à faire la synthèse de ce qu'on doit retenir de ces données-là. Souvent, c'est plusieurs années plus tard. Quelque chose décante, et là, je peux dire quelque chose. Donc, j'indique ça pour montrer que le travail individuel a encore beaucoup de place dans le travail scientifique, même si ce n'est pas la base sur laquelle, actuellement, le financement de la recherche est assuré. Il doit y avoir du travail individuel qui se poursuit dans nos disciplines. Et moi, c'est ce que j'aurais le plus besoin de faire. Je dirige des équipes immenses. C'est immense. Et je connais chacun de ces chercheurs-là. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est de connaître chacun. C'est pas tellement ce qu'on réussit à faire tous ensemble, parce que, oui, on fait quelque chose ensemble et je m'assure qu'on fasse quelque chose ensemble, mais en fait, ce que chacun fait est vraiment fondamentalement intéressant. Et donc, je crois beaucoup encore au travail individuel, qui n'est pas un travail isolé. C'est qu'à un certain moment, la synthèse ne peut pas se faire dans 10 cerveaux en même temps. Quelqu'un doit avoir une idée. La synthèse doit se faire et l'intégration de tout ce qu'on croit pouvoir tirer de 20 ans de recherche doit pouvoir se faire à un certain lieu. Ce lieu-là, c'est souvent la tête d'une certaine personne. Et donc, je crois vraiment qu'il doit y avoir aujourd'hui, à nouveau, des subventions pour des individus qui sont prêts à faire la synthèse de quelque chose, quitte à travailler sur les travaux des autres, en se servant des travaux des autres. Et ce qui est tout à fait utile aussi et qui est important aussi, dans certains cas, parce que ce que je dis souvent ça pour les thèses de doctorat et puis je le dis souvent pour les projets de recherche aussi, et je l'ai dit indirectement tout à l'heure, la recherche que les gens amènent est beaucoup plus intéressante qu'ils le pensent eux-mêmes, dans certains cas, parce qu'ils sont justement pris dans cette nécessité d'aller chercher une donnée nouvelle, alors qu'il y a tellement de données inexploitées et qui pourraient faire l'objet d'analyses plus poussées à un deuxième, à un troisième niveau. Redonner au travail théorique sa place, au niveau où il peut se faire aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour des possibilités des grandes théories de référence. Même aujourd'hui, les études sur la postmodernité, par exemple, c'est chatoyant, mais en fait, il y a de tout là-dedans. Une fois qu'on a dit 7 ou 8 choses sur l'évolution des sociétés contemporaines, sur leur segmentation, sur la cristallisation des individualités, etc., on avait à peu près tout dit, là. Et là, on peut le répéter sur 400 pages, si on veut. Mais finalement, ce qu'on peut dire de cette tendance-là, elle est à peu près été dit. En contrepartie, à cause de ça, plus beaucoup de monde travaille sur la société maintenant. C'est une immense difficulté. Qu'est-ce qui fait société? On étudie la déstructuration des rapports sociaux. On étudie l'éclatement des rapports sociaux, le développement des minorités de tous les types, là, en fonction des choix personnels, des réseaux, des sous-réseaux sociaux, le développement des pratiques innovatrices complètement marginales et qui sont intéressantes par leur marginalité, qu'on est prêt à financer. On veut les financer, on est prêt à les financer. Si vous travaillez sur un groupe complètement marginalisé, vous allez trouver des moyens de financement. Ça devient beaucoup plus compliqué d'étudier et d'être financé pour étudier la société. C'est-à-dire la société qui se construit malgré ça, qui se construit malgré ces segmentations-là et qu'on ne voit plus parce qu'on étudie la société dans ses marges, puis toute la société dans sa régulation générale. Et il y a un travail important au plan de la perspective à développer pour ça. Et le niveau où on se situe doit être ce niveau intermédiaire qu'on n'est pas parvenu à trouver encore. Et c'est Merton qui parle des théories de moyenne portée, parce que lui-même, comme fonctionnaliste, était arrivé à la limite des très grandes théories qui tendent ou cherchent à expliquer tout ce qui se passe dans la société et qui ne parviennent plus à expliquer rien, sauf à un niveau de généralité où on dit des choses qu'on ne trouve jamais dans la réalité, à la limite. Donc, on est en train d'inventer un monde. J'ai toujours dit que le cerveau humain est un truc extraordinaire, qu'il fallait se méfier de la pensée, parce que la science-fiction existe. On peut inventer des mondes qui n'existent pas. Je pense qu'il y a quelque chose à faire entre cette construction-là, plus ou moins fantasmatique, de mondes qui n'existent pas, mais qui sont satisfaisants pour l'esprit. Et puis, les recherches très minuscules de micro-sociologie qui étudient des micro-milieux, des micro-comportements, entre les deux, il existe un espace inoccupé qui est l'espace de la modélisation, je considère être l'espace de la modélisation, le lieu où on peut encore étudier des processus sociaux qu'on peut repérer et qui sont transposables dans un très grand nombre de champs sociaux et qui sont des phénomènes structurants, qui rendent compte de processus structurants au plan social, c'est des processus de socialisation, donc de processus dans le cadre desquels les individus se coordonnent les uns les autres, ajustent leur comportement mutuel et rendent la société possible, et créent constamment la société, qui, une fois qu'elle se définit dans ces standards-là, connaît une certaine pérennité. Sans faire un structuralisme absolu, il faut reconnaître qu'il y a des formes sociales stables. On vit dans une société relativement pacifiée. L'essentiel des rapports entre les individus ne transite pas par des normes juridiques, mais par des ajustements mutuels qui, à force finalement de se répéter, finissent par se standardiser. De sorte que les gens, en général, montent l'escalier à droite et puis descendent à droite, de sorte qu'on ne s'entrechoque pas. La plus grande partie de nos interactions sont structurées sur des phénomènes de ce type-là, qui peuvent être très facilement modélisés, puis qu'une fois qu'ils sont compris et repérés, se révèlent comme des processus stables. Et donc, je crois qu'il faut être capable d'étudier la société à ce niveau-là, de stabilisation. Et là, on la reverrait. On reverrait que la société existe et que c'est peut-être ce qu'il faut étudier aujourd'hui, plutôt que se désarmer, que la société n'existe plus ou que tout se liquéfie. Ce sont c'est sur la base de ces inquiétudes-là que la sociologie allemande s'est en partie construite, je dirais, au 20e siècle, avec l'urbanisation, la peur que tout ce qui était stable se déstabilise. Les distinctions entre la communauté et la société, par exemple, qui, dans le fond, théorisaient les relations dans les milieux agricoles, paysans, par rapport aux milieux urbains. Bon, moi, je passe ma vie dans des communautés qui se structurent et qui ont une certaine stabilité sociale. Même au plan des réseaux sociaux, on peut toujours avoir autant d'amis Facebook qu'on veut. Finalement, on écrit quand même toujours au 7-8 même. Il y a quelque chose là-dedans qui révèle que ce qu'on croyait être en voie de disparition, en fait, a toujours existé, puis que c'est uniquement une... c'est une erreur d'optique, c'est une erreur de perspective de croire que la société n'existe plus. Alors, j'indique ça parce que je crois que ce travail de synthèse-là, dans beaucoup de cas, il peut être fait en équipe, mais je pense qu'il y a de la place là pour le travail individuel. Il y a de la place là pour des universitaires qui se diraient, bon, je vais étudier ce qu'on croit qu'on sait, ce qu'on a mesuré, ce qu'on a observé, je vais essayer de tirer de ça une certaine compréhension, à un certain niveau d'abstraction, un certain niveau théorique, qui permettrait de fonder éventuellement les programmes de recherche futurs. Il n'y a pas assez de place pour ça. Le CRSH vient de faire produire un rapport où tout à coup, on se réveille en se disant « Est-ce qu'on ne devrait pas faire plus de recherche fondamentale? » Je pense que ça va dans le sens où il faut aller. Moi-même, mon projet, mon immense projet, là, adage, accès au droit, accès à la justice, immense projet. Ce projet, il vise à expérimenter des nouvelles pratiques sociales à l'intérieur du système de justice ou dans les écoles. Ou dans les rapports entre les avocats ou les notaires et leurs clients. Et on peut considérer que c'est de la recherche appliquée. Je cherche à observer quelque chose et à voir comment ces réalités-là, comment ces pratiques-là peuvent être changées. Mais le véritable projet derrière ce projet, c'est un projet sur les innovations sociales, c'est un projet sur le changement social dans les systèmes fortement institutionnalisés, qui sont nombreux dans notre société et qui font également partie de ce qui fait société. Donc, je vais étudier, en étudiant le code du système de justice, comment est-ce que la société change. Et je pense que ce niveau d'abstraction, c'est le bon. C'est celui où il faut travailler et travailler sur des catégories plus générales comme la normativité, par exemple, ça peut redevenir intéressant dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, on est producteur de normes toute notre vie. Dans ma famille, il y a des règles collées sur le frigidaire. Qui c'est qui fait les lunchs? Qui c'est qui met la table cette semaine-là? Qui c'est qui fait la vaisselle? C'est organisé. On a des normes. C'est le même dans la plupart des familles. Hein? Puis même dans les couples, il y a généralement des normes. Il y a des choses qui doivent être faites et qui sont faites d'une certaine façon et pas d'une autre. Ça prouve qu'il existe des formes de socialisation, des normes qui se développent au fur et à mesure du besoin, qui durent le temps que la convention est utile, qu'on peut changer par la suite. Ça prouve en fait qu'il existe encore des normes dans notre société. Pourtant, la sociologie n'étudie plus les normes depuis 35 ans. Pourquoi? Parce qu'on craignait que le droit devienne le dernier mot de la société. Et donc, on a dit, ben, c'est pas les normes, c'est les pratiques sociales, c'est les raisons pratiques, c'est les habitudes que les gens ont. On a essayé de nommer ça de toutes les façons possibles pour pas parler du terme, du mot norme, parce que ça laissait supposer l'efficacité de la normativité juridique ou des normes sociales elles-mêmes. Alors que la norme existe, et ce qui est intéressant, c'est la danse que les gens dansent autour de la norme. Parce que même lorsque on ne respecte pas, même lorsqu'on contrevient à une norme, on la respecte si on sait qu'on est en train d'y contrevenir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire simplement que sur la base d'un autre calcul, on se comporte différemment. Mais ça ne veut pas dire que la norme n'existe pas comme système de référence. Les gens circulent à 120 km sur l'autoroute, même si la limite est 100. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de norme. Parce que tout le monde sait qu'on ne va pas au-delà de 120. Les policiers respectent bizarrement cette contravention. Ils ne vous arrêtent pas sur l'autoroute à 119 km à l'heure et même à 120. Même si, normalement, formellement, ils devraient vous arrêter à 102. Et ce n'est pas uniquement lié à la précision des systèmes pour repérer la vitesse, là, des radars. C'est parce que sur des routes où on pourrait rouler à 150 km, tout le monde sait bien qu'on peut rouler à 120. Et donc, on voit comment est-ce que la norme existe, mais... C'est juste que son efficacité n'est pas là où on croit. Et c'est ce que je dis généralement du droit. Le droit marche contrairement à ce qu'on croit, mais pas du tout pour les raisons qu'on croit. Sa fonction générale, c'est de sécuriser les rapports sociaux. Et à partir du moment où ces rapports sociaux sont sécurisés, qu'on sait qu'en dernière instance, il y aura toujours quelqu'un qui pourrait intervenir pour régler un problème, on peut se permettre, à l'intérieur de l'espace de sécurité que ça crée, d'établir les rapports sociaux qu'on veut. Abordé comme ça, on comprend la fonction structurante du droit. Et si le droit n'est pas efficace pour les raisons qu'on croit, il est efficace pour une autre raison. Mais pour ça, il faut accepter que la société existe. Il faut vouloir et s'intéresser à la société, à ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, société. Et de voir par la suite les stratégies que les gens déploient, que les groupes déploient, l'individualité existe. Mais elle a toujours existé. Même dans les sociétés traditionnelles, une certaine part d'individualité existe. Elle ne s'exprime pas du tout de la même façon, parce qu'on est dans des cadres plus resserrés, puis aussi on est dans des systèmes de contraintes qu'on ne peut pas dépasser. Mais ça, c'est le cadre. Mais comme je l'ai souvent dit, même la liberté individuelle est une production sociale. Et donc, en fait, on doit beaucoup plus à la société où on vit que l'impression de notre individualité peut le laisser penser. Et donc, il faut, je pense, à l'avenir, réfléchir à ce niveau-là. Et pour l'avenir, du moins, de la sociologie, c'est ce vers quoi, je crois, il faut aller. Après l'échec des grands modèles, si je peux dire, la fin du grand récit, on veut utiliser ces références-là, on s'est intéressé à des questions de méthode dans notre domaine. Les grands débats étaient des débats de méthode entre les quantitativistes, les qualitativistes, etc. Et ça a duré pendant 15 ans. Ça a permis à l'analyse qualitative de se donner ses lettres de noblesse. Ça a permis à l'analyse qualitative de se structurer, même dans certains cas, d'une façon très formelle, peut-être même d'une façon, je dirais, plus contraignante que ce que cette contrainte-là offre vraiment davantage au plan de la recherche. Mais cela étant, ça a permis de développer un nouveau champ de la recherche, qui était le champ de la recherche qualitative. Ça a mis de côté la recherche quantitative pendant un certain temps. Je pense aujourd'hui qu'on a dépassé ces dichotomies-là et que nos débats dans les sciences sociales cessent d'être des questions de méthode maintenant, je crois, mais des questions du niveau où la théorisation vaut la peine d'être faite. Et je crois qu'il faut que le système de recherche maintenant revienne là-dessus et appuie cette nécessité de reconstruire des modèles intermédiaires, d'explication, de compréhension du monde dans lequel on vit, la façon dont la société se structure, se maintient.